Tête au carré.
Avec l'université de tous les savoirs.
Bonjour à tous, bienvenue à Marseille en direct du lycée Diderot pour une tête au carré avec les élèves des classes de seconde et première scientifique. On vous propose pendant une heure de parler du problème de l'eau dans le monde et vous pouvez nous rejoindre avec vos questions et vos messages sur le site de la tête au carré sur franceinter.com. Mathieu Vidard, bonjour.
Bonjour Sofiane, merci beaucoup. Bravo à toi pour ce lancement. Nous sommes donc aujourd'hui au lycée Diderot de Marseille, qui est situé dans les quartiers nord de la ville sur le boulevard Laveyran. Et on poursuit donc effectivement notre série d'émissions avec nos confrères de l'Université de tous les savoirs. Et pour cette nouvelle étape, les élèves vont questionner notre invité scientifique sur la question cruciale de l'eau. Philippe Gourbeville, bonjour.
Bonjour.
C'est donc vous le spécialiste de l'eau, des ressources en eau et de la gestion environnementale. Vous êtes professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis et directeur de l'école Polytechnice. Alors les élèves du lycée ont beaucoup de questions à vous poser hein, sur l'origine, sur l'histoire de l'eau, sur la consommation de l'eau dans le monde et en France en particulier, et puis sur les perspectives autour de la ressource hydraulique. Et les auditeurs donc nous rejoignent avec les courriels pour vous poser également des questions avec les élèves via franceinter.com. Violaine Ballet réalise cette tête au carré marseillaise qui a été préparée par Sophie Ledoré avec également la région PACA. Et Gilles Autroche est avec nous, c'est le proviseur du lycée Diderot. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
2000 élèves ici au lycée Diderot hein, dans ces quartiers nord.
Près de 2000 élèves permettent de dispenser des formations dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des travaux publics, des arts appliqués et bien sûr aussi dans le domaine des sciences puisque c'est un des thèmes de l'émission.
Voilà, avec un internat également pour ceux qui habitent loin.
Oui, puisque nous recrutons sur la grande région PACA depuis Briançon en passant par le Vaucluse et Sainte-Marie-de-la-Mer.
Ouais. Combien de classes scientifiques justement au lycée Diderot ?
Nous avons relativement peu de classes par rapport aux autres spécialités, mais on a deux classes de première S scientifiques qui se répartissent entre les sciences naturelles et puis les sciences de l'ingénieur. Là, on est près du thème de l'émission.
Alors, Patrice Bonnet, vous êtes professeur de sciences de la vie et de la Terre ici au lycée. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors, c'est vous qui avez planché hein, avec vos élèves sur ce thème de l'eau. Alors, lycée spécialisé, donc on le disait, en arts appliqués, en bâtiments, en travaux publics. Et cette thématique de l'eau, vous l'abordez régulièrement ? Elle est dans les programmes ?
Dans les programmes de seconde, en sciences de la vie et de la Terre, mais aussi en géographie. Donc, un grand thème donc, transdisciplinaire. On travaille beaucoup donc, comme ça. Je retiens d'ailleurs à remercier tous mes collègues qui m'ont accompagné, donc Madame Proust en physique-chimie, Madame Ferraris en histoire-géographie, et bien sûr donc, les élèves qui ont été très volontaires pour participer à ce projet.
Est-ce que les matières scientifiques ont la cote ici avec votre lycée ?
La cote, comme dans tout établissement, hein, on travaille les sciences. Peu d'élèves en sciences, parce qu'on est un lycée du bâtiment et des arts appliqués, mais les élèves qui sont là donc sont là pour travailler, sont motivés et toujours envieux de découvrir des choses.
Sur quel type de projet est-ce que vous avez travaillé justement dans les matières scientifiques puisque vous menez un certain nombre de projets d'expériences avec les élèves ?
Alors on monte donc des expériences de partenariat avec l'université, donc avec le laboratoire de recherche Hippocampe. On participe à des animations scientifiques, des expositions avec la mairie du 13e et aussi d'autres partenaires.
Vous avez réalisé un pendule de Foucault, je crois, d'ailleurs, l'an dernier avec vos élèves.
L'an dernier, effectivement, donc un grand projet donc, s'est mis en œuvre. Donc, c'est le pendule de Foucault. Donc, d'ailleurs, certains élèves qui vont poser des questions sur l'eau ont participé aussi à l'élaboration.
Alors, Philippe Gourbeville, beaucoup de questions donc, pour vous au cours de cette émission. Comment est-ce que vous avez été amené justement à vous spécialiser, vous, dans le domaine de l'eau ?
Alors j'allais dire, c'est une longue histoire professionnelle et puis peut-être un intérêt aussi en tant que Normand que d'avoir vécu pas tellement loin du littoral et aussi d'une grande zone de marais qui est devenue d'ailleurs un parc régional naturel aujourd'hui avec beaucoup de problèmes d'inondation, de gestion, d'usage. Et donc ensuite un intérêt professionnel et scientifique qui s'est décliné au cours d'une activité professionnelle tant dans le domaine privé qu'au niveau de l'éducation et de la formation des ingénieurs aujourd'hui et au sein de l'Université de Nice.
Vous êtes souvent amené à parler de cette problématique de l'eau avec des élèves de lycée justement ?
Ben de plus en plus, et je crois que c'est quelque chose d'important. Je crois que le proviseur du lycée tout à l'heure soulignait l'intérêt de ramener la science, la technologie auprès des jeunes. Et c'est un domaine qui, aujourd'hui, attire énormément et dans lequel les possibilités d'emploi à tout niveau sont de plus en plus offertes. Et donc, c'est un domaine qui, je pense, il est important de faire partager, découvrir aux jeunes.
Alors, justement, quels sont les métiers possibles dans le domaine de l'eau qui, évidemment, est extrêmement vaste pour ceux qui, peut-être, ici, souhaiteraient s'engager dans cette voie plus tard.
Je crois qu'il y a énormément de possibilités, donc à des niveaux qui sont des niveaux de qualification CAP, BEP, etc. Donc bac professionnel par exemple. Il y a ensuite tous les aspects qui concernent formation à bac plus 2 plutôt autour de l'électrotechnique, donc des formations qui sont ouvertes dans les IUT et qui sont largement professionnalisantes, et bien sûr des formations d'ingénieurs, des formations au niveau de master dans les universités, des formations docteurs pour ceux qui veulent se lancer dans les plaisirs de la recherche, que ce soit dans les domaines de la physique, de la chimie, ou également de la législation, du droit, de l'économie.
L'eau, voilà le thème de la tête au carré, donc avec les élèves du lycée Diderot, aujourd'hui, vendredi, en direct de Marseille. On les retrouve dans un instant avec les questions. Ce sera après Olivia Ruiz et Elle Panique. Bon après-midi. Carré en direct du lycée Diderot de Marseille, donc avec les élèves des classes de seconde et de première scientifique. L'université de tous les savoirs nous accompagne et donc nous sommes avec Philippe Gourbeville, spécialiste de l'eau, professeur à l'université de Nice Sophie Antipolis et directeur de l'école Polytechnice. Et donc c'est parti avec les élèves pour débattre de ce thème de l'eau. Et justement Sofiane, c'est toi qui as l'honneur à nouveau d'entamer le débat sur l'eau.
C'est gentil, merci. Alors j'avais une question très substantielle à vous poser. La question c'est quelle est l'origine de l'eau sur Terre? Donc c'est une question qui revient très souvent et sur laquelle beaucoup de personnes réfléchissent.
Alors ça c'est une grande question générale effectivement, avant d'en arriver à notre géographie française et internationale, d'abord savoir comment l'eau effectivement est arrivée sur Terre.
Oui, très très, très, très vaste question, comme l'a très bien dit Sofiane, là, très, très substantielle j'allais dire. Effectivement, beaucoup de scientifiques se posent la question. Effectivement, l'eau est un élément constitutif de la Terre à l'origine. On appelle effectivement cette Terre la planète bleue, et c'est un élément très important au niveau de la constitution de notre planète. La question se pose de savoir d'où vient cette eau. On sait que l'eau existe dans d'autres endroits au niveau de la galaxie, sur d'autres planètes, sur d'autres corps célestes. Il reste une interrogation qui est de savoir quelle est l'origine de cette molécule aujourd'hui. Et beaucoup de questions restent ouvertes. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse formelle, vraiment bien affirmée sur l'origine exacte de l'histoire. Ce qu'on sait, c'est que la Terre en tant que telle s'est retrouvée effectivement avec de l'eau qui a pu apparaître suite à la libération de ces molécules contenues dans la partie interne de cette planète, qui s'est ensuite condensée et qui a formé cette couverture bleue qu'on observe sur l'ensemble de la Terre.
Mais est-ce que l'eau était présente aux toutes premières heures justement de la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années?
On peut estimer que oui, sans doute pas sous la forme des océans tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais en tout cas elle était présente au sein de la matière qui était à l'origine de la Terre.
Mais l'eau liquide c'est quand même une originalité terrestre hein, dans notre système solaire.
Tout à fait. Dans notre système solaire, même si on en a trouvé quelques traces très récemment à la surface de Mars, puisqu'on imagine qu'il existe des phénomènes de condensation et d'écoulement qui ont pu exister.
Alors, une autre question, je crois que c'est Salim hein, qui a cette question. Alors, où est Salim? Où c'est Abdou? On va te passer le micro. Bonjour Abdou.
Bonjour.
Bienvenue, on t'écoute.
Merci. Toujours dans le même thème, c'est plus précisément, c'est l'origine de l'eau que nous utilisons dans la vie quotidienne.
Oui, alors ça, je crois que c'est effectivement une des grandes questions, c'est lorsqu'on ouvre le robinet, d'où vient cette eau qui sort de ce robinet? Alors, la situation peut varier énormément selon l'endroit où on se trouve, mais globalement en France, dans pratiquement 90%, l'eau qui sort du robinet est l'eau qui est pompée à l'intérieur d'une nappe phréatique. Donc c'est de l'eau qui est contenue à l'intérieur du sol que l'on va pomper, que l'on achemine par des canalisations et qui arrive donc directement au niveau du robinet. Donc dans pratiquement 90%, c'est une eau qui vient des nappes phréatiques du sol. Ailleurs, dans d'autres pays, ça peut être de l'eau qu'on capte en surface, donc qui vient d'un lac, d'une rivière. On évite de le faire pour un problème sanitaire, c'est-à-dire que si on va chercher l'eau en surface qui est contenue dans un lac ou dans une rivière, elle peut être contaminée par une pollution, donc que ce soit une pollution d'origine animale, d'origine organique. Et donc, par conséquent, on va plutôt chercher une eau dans le sol qui, elle, est plus facile à aller chercher et qui, surtout, est de bonne qualité sur laquelle on n'aura pas de traitement à faire.
Est-ce qu'on peut dire un mot quand même de ce cycle hydrologique de la planète? Parce que c'est intéressant, hein. L'eau peut rester stockée pendant très longtemps au même endroit ou au contraire s'évaporer extrêmement rapidement.
Alors, elle peut s'évaporer effectivement très très rapidement. Le cycle de l'eau général, c'est effectivement d'avoir des précipitations qui arrivent au niveau des terres émergées, qui vont ensuite arriver au niveau du sol, ruisseler, se diriger vers les cours d'eau, soit être intercepté par la végétation. La végétation va attraper cette eau, pouvoir se développer. On est au printemps, les feuilles commencent à sortir. Là, tous les arbres sont en train de consommer quelques dizaines ou quelques centaines de litres par jour pour permettre leur développement. Et une partie de cette eau va continuer à s'infiltrer et rejoindre les nappes phréatiques qu'on évoquait tout à l'heure, qui, elles, vont s'écouler extrêmement lentement, plusieurs dizaines d'années parfois, avant de rejoindre l'océan, la mer, et pour ensuite revenir vers l'atmosphère en s'évaporant, redonnant des nuages qui de nouveau reviendront au niveau des terres, qui redonneront des précipitations et ainsi de suite. Donc tout ça prend plusieurs années pour les processus les plus lents, quelques jours ou quelques semaines pour les processus les plus rapides.
Et est-ce que la quantité d'eau qui s'évapore retombe en intégralité sous forme de précipitation ou est-ce qu'il y a de la perte en cours de route ?
Le système est fini, donc a priori toutes les molécules d'eau restent au niveau de la planète. Bon, bien évidemment, il y en a un certain nombre qui sont pompées, qui sont utilisées et transformées. Si on regarde la France par exemple, la France reçoit 35 milliards de mètres cubes, on en utilise 6 milliards de mètres cubes pour l'eau potable. Donc ça veut dire que cette eau sera renvoyée vers le milieu naturel comme eau polluée quelque part, mais qu'au passage on l'aura utilisée pour à la fois l'alimentation mais aussi pour l'industrie, pour l'agriculture, etc. Mais le système, lui, est fini, les molécules sont toujours là.
On arrive à chiffrer facilement le volume total des eaux terrestres? On a encore des difficultés à pouvoir l'estimer?
Non, on arrive assez bien à chiffrer. On connaît globalement la masse, le volume des océans. On sait que l'eau qui est l'eau douce représente un pourcentage qui est extrêmement faible. On est de l'ordre de quelques pourcents par rapport à la masse globale d'eau. Et surtout, la part qui est contenue dans le vivant, elle est extrêmement réduite et n'est absolument pas comparable par rapport au volume global de l'eau sur Terre.
Abou, à toi de jouer.
Donc,
bonjour.
Bonjour. Donc, moi et mes camarades voudrions savoir comment l'eau est-elle répartie sur la surface de la Terre et si chaque homme a à sa disposition la même quantité d'eau.
Alors, je crois que là il y a deux questions.
Oui, la première
question, c'est la répartition. Le premier élément, c'est de dire la partie la plus importante correspond aux océans. Lorsque vous regardez la planète, effectivement, les océans occupent une très grande place et la majorité de l'eau se trouve rassemblée au niveau des océans. Ensuite, celle qui vous intéresse, qui nous intéresse tous, c'est la quantité qui est disponible sur les continents, à la fois pour l'alimentation potable, celle dont on a besoin pour vivre, pour boire, et puis celle dont on a besoin pour faire fonctionner l'agriculture, pour faire fonctionner l'industrie et tout ce qui va autour de ces activités. Bien évidemment, cette répartition de l'eau n'est pas équivalente sur tous les espaces du globe. Vous savez qu'en particulier dans les latitudes moyennes, c'est-à-dire les nôtres, celle de l'Europe, on a une quantité d'eau qui est disponible de par les précipitations, de par les lacs, de par les rivières qui peuvent se mettre en place. Par contre, lorsqu'on descend un petit peu plus bas en latitude, qu'on arrive dans la région saharienne ou sahélienne par exemple, vous avez des précipitations beaucoup plus réduites et donc une quantité d'eau naturelle disponible qui est beaucoup moindre pour les populations. Donc ce qui veut dire que la disponibilité pour les populations qui vivent dans ces espaces est beaucoup plus faible. Ceci étant, on peut aller chercher une eau qui n'est pas une eau de surface, j'évoquais tout à l'heure les ressources souterraines, pour alimenter en eau ces populations ou avoir recours à des moyens technologiques, c'est la désalinisation par exemple, pour aller chercher de l'eau au niveau des océans. De manière générale, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que si on regarde le stock global de l'eau, aujourd'hui la population augmente, et donc si on regarde la répartition d'eau par individu, on s'aperçoit que cette répartition, ce volume d'eau disponible, a tendance à disparaître, à se réduire, pas à disparaître, mais à se réduire de manière très très sensible. Et au cours des dernières 60 dernières années, le volume d'eau disponible a pratiquement été divisé par deux du fait de l'augmentation de la population.
Alors, Abou, hein, toujours sur cette question.
Oui, toujours sur cette question. Donc, je voudrais rebondir sur cette question et savoir à peu près en chiffres quelle serait en moyenne l'utilisation pour toute personne dans la vie quotidienne de l'eau, quoi.
Alors, on a des chiffres très précis.
Des chiffres très précis,
assez effarant d'ailleurs quand on regarde les chiffres.
Oui, oui. Alors on va commencer par ce qui nous intéresse et nous touche directement, donc ce qui se passe en France. La moyenne est aux alentours de 137 litres par jour par habitant. Donc ça, c'est ce que l'on consomme quotidiennement.
Quand on prend notre douche, c'est combien, 60, 80 litres d'eau?
J'espère que non. J'espère que c'est bien moins que ça. Hein. Donc c'est quelque chose.
Tout dépend du temps qu'on passe sous la douche.
Tout dépend du temps qu'on passe sous la douche, mais de toute façon, il vaut mieux être sous la douche que dans la baignoire. Ça c'est très clair. Une douche est à peu près le tiers d'un bain. Hein. Donc il vaut effectivement mieux privilégier la douche. Ce qui consomme le plus, ce sont les toilettes. C'est le volume des toilettes qui représente la consommation la plus importante. Et puis ensuite.
C'est quand même très embêtant. Hein.
Ce qui est quand même très embêtant.
Oui.
Hein, donc,
pour faire des efforts, c'est embêtant.
C'est très embêtant. Donc, ensuite, il y a tous les,
tous les lave-linges qui consomment énormément aussi, qui sont des éléments importants au niveau de la consommation. Et puis le dernier dans la liste, ce sont les lave-vaisselles. Il faut savoir que la consommation des lave-vaisselles est en fait inférieure à la vaisselle que l'on fait à la main. Donc il est plus intéressant de faire confiance à la machine plutôt que de...
Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Hein.
Mais c'est le cas, c'est le cas. Donc au niveau du volume consommé. Donc les 137 litres que j'indiquais tout à l'heure, c'est effectivement pour vous laver, mais c'est aussi pour préparer votre nourriture, pour les transports, pour tout ce qui va avec. Donc c'est ce que vous consommez. Par contre, on ne met pas dans ce chiffre le volume d'eau qu'il a été nécessaire d'utiliser pour votre nourriture, pour produire votre nourriture. Hein, si on regarde la quantité d'eau qui est nécessaire pour produire un œuf, par exemple, oui. Il faut presque 1000 litres pour produire un œuf. C'est-à-dire que toute la chaîne pour nettoyer les installations sanitaires, pour conditionner l'œuf, le rendre prêt à être consommé dans le magasin, on va consommer pratiquement 1000 litres d'eau pour le mettre à votre disposition dans votre réfrigérateur pour le petit déjeuner.
C'est pire pour un steak de bœuf, hein, cela dit. Hein.
C'est pire pour un steak de bœuf, et le pire étant le kilo de coton qui consomme 10 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 10 000 litres pour un kilo de coton.
Oui. Ah oui, vous êtes effaré apparemment hein, par ces chiffres, mais on peut les retrouver effectivement par aliment produit l'équivalent en litres d'eau, et c'est vrai que c'est
considérable.
Extrêmement étonnant. Hein.
Considérable. Et l'un des enjeux est de bien voir que ces efforts ne sont pas toujours faits dans des sites dans lesquels l'eau est disponible. C'est-à-dire qu'une production agricole sera d'autant plus pénalisante qu'elle intervient dans un pays où la ressource en eau est faible. Donc produire par exemple des légumes hors saison en Europe qui pourraient se développer par exemple en Afrique, je ne vais pas viser les haricots verts au Kenya en particulier, où là on va consommer énormément d'eau lorsqu'on a peu de ressources pour pouvoir ensuite avoir ce confort de consommation en Europe, c'est peut-être pas la meilleure des choses.
Alors Laetitia aura une question pour vous dans un instant. Un courriel de Vincent qui nous écoute en région parisienne. Concrètement, demande Vincent, qu'est-ce que le travail de générations d'hommes et de moines notamment, dit-il, qui ont creusé la terre durant des siècles, nous a apporté en France en matière d'eau? Il demande si cet héritage est toujours là.
Oui, je crois que c'est le cas.
Alors, qu'est-ce qu'il entend par creuser la terre ?
Ah, creuser la terre, je crois qu'effectivement, en Europe, et c'est le cas en France, on a très très tôt développé un savoir-faire en matière de gestion de l'eau, et en particulier au niveau des ouvrages qui étaient destinés à la production agricole. C'est quelque chose qui apparaît très très tôt. L'Empire romain a commencé rapidement. On a le pont du Gard, pas si loin de nous ici. C'est l'un des exemples pour l'alimentation en eau à la fois des villes, l'alimentation en eau des systèmes agricoles. Donc toutes les dispositions, le savoir-faire sur les chenaux, les canaux, comment alimenter, comment produire, c'est sans doute l'un des éléments les plus forts. Et la France possède un très grand patrimoine à la fois de canaux, un savoir-faire très important qui perdure aujourd'hui et qui s'est transféré dans l'industrie et dans la technologie moderne aujourd'hui. Donc là, la France reste l'un des pays très, très en avance au niveau de la maîtrise de l'hydraulique en général et de la gestion de l'eau.
Laetitia, bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va. Donc en fait, nous sommes tous demandés comment économiser l'eau et en assurer une gestion durable.
Alors, ça, économiser l'eau, c'est vrai, sur ces chiffres dont on parlait il y a un instant, alors, sur les efforts qu'on peut mener.
Alors déjà, je crois qu'il y a un point extrêmement important à souligner. Il faut déjà dire qu'une partie de la bataille est en train d'être gagnée. Je ne dis pas qu'elle soit complètement gagnée, mais la consommation en eau dans les grandes villes européennes est en train de diminuer. Donc de manière sensible, depuis 2002, on a une réduction de la consommation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que chacun des petits gestes que tout le monde fait tous les jours, qui consiste à effectivement avoir une chasse d'eau qui permet d'avoir...
Alors donnez-nous effectivement des exemples concrets, puisque c'est la question de Laetitia, économiser cette eau.
Je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc la chasse d'eau avec les deux fonctions, un volume faible ou un volume plus important, ça c'est un élément très, très important. Lorsqu'on ne veut pas réaliser ce dispositif, il y a quelque chose de plus simple, vous mettez simplement une brique à l'intérieur de votre chasse d'eau et vous réduisez le volume d'eau stocké à l'intérieur de votre chasse d'eau. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est la chasse systématique aux fuites, en particulier dans les établissements publics. Donc je vois le proviseur du lycée qui acquiesce en disant effectivement, il faut essayer d'avoir dans toutes les installations publiques des dispositifs qui permettent de couper de manière automatique l'eau et pour éviter d'avoir des fuites qui durent et qui durent. Donc ça, c'est un élément.
Est-ce que c'est le cas chez vous, Gilles Autroche?
Oui, pratiquement partout, il y a des robinets à bouton poussoir pour éviter que l'on oublie de fermer le robinet.
Et vous regardez la facture d'eau attentivement tous les mois ici au lycée Diderot ?
Sachez que les élus de la région qui sont ici la surveillent en même temps que nous.
Mais vous essayez concrètement vraiment de mener des opérations d'économie de l'eau ?
On tend vers ce genre de choses, mais c'est assez difficile dans un bâtiment, comme on le disait tout à l'heure, qui a été renouvelé, réhabilité plusieurs fois.
Oui, donc je pense que c'est effectivement des dispositions dans lesquelles il faut s'orienter. Surtout tous les établissements publics doivent essayer de faire cette démarche. Et puis deuxième aspect, c'est éventuellement d'essayer de développer toutes les solutions de réutilisation de l'eau. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Ça concerne pas forcément les particuliers, mais ça concerne là encore les établissements publics qui ont la capacité de se doter des équipements techniques pour permettre d'épurer et de rendre utilisable cette eau de nouveau.
Alors Michel nous écoute à Marseille, ça tombe bien, donc probablement proche de nous. L'eau dans le monde, dit-il, l'eau à Marseille, pourquoi l'eau ici est l'une des plus chères de France ? Est-ce que c'est vrai ?
Déjà, je ne connais pas exactement le prix de l'eau de l'eau à Marseille. Il faut savoir que le prix moyen du mètre cube d'eau est aux alentours de à peu près 3 euros en France. C'est 3 euros pour 1000 litres. Oui. Je vous fais faire le rapport avec ce que coûte une eau en bouteille. C'est à peu près 1000 fois moins cher pour le même volume. Donc déjà, effectivement, l'eau, elle peut être jugée chère à Marseille, mais ça reste de toute façon quelque chose de très peu cher au regard d'une eau en bouteille. Pourquoi elle peut être chère à Marseille, mais pourquoi elle est chère ailleurs ? Tout simplement parce que dans le prix de l'eau, on doit payer le service qui permet d'apporter une eau d'excellente qualité au niveau du robinet. La chance qu'a la France, que tous les habitants de la France ont, c'est que lorsqu'ils ouvrent le robinet, ils peuvent mettre le verre dessous et boire instantanément cette eau sans aucun problème sanitaire. Donc ce que l'on paye, c'est la qualité de cette eau et toutes les analyses qui sont faites dessus pour assurer d'avoir une très bonne consommation et aucun risque sanitaire. Et ce que l'on paye pour moitié à l'intérieur du prix de l'eau, c'est l'élimination de la pollution que chacun produit. Donc en fait, la moitié de ce prix est utilisée pour dépolluer cette eau pour qu'ensuite elle puisse être renvoyée vers le milieu naturel sans impact sur le milieu naturel, que ce soit les calanques ici à Marseille en particulier qu'il convient de protéger, qui sont effectivement un site absolument exceptionnel. Alors, donc voilà une des raisons du prix de l'eau, en plus des réseaux et tout ce qui va avec.
Alors pour illustrer justement le sujet de l'accès à l'eau, je vous propose d'écouter un court reportage qui est signé Nathalie Fontrel. Elle s'était rendue en 2000 en Afrique du Sud, où l'eau potable arrivait pour la première fois dans un village grâce à des bornes fontaines.
Elle dit que l'eau est arrivée. C'est une eau claire qui coule de nos 10 fontaines.
L'eau courante dans le village. Si les habitants remplissent toujours des bidons, c'est au robinet d'une dizaine de bornes fontaines reliées à une station de traitement. Hier, c'était à pied qu'on allait puiser l'eau dans la rivière à 8 km de là. Pour Cecilia Cornelia, c'était une vraie corvée.
If I come to my home, I must go to the river.
Quand je rentrais du travail, je devais aller à la rivière qui est très loin et ça me prenait beaucoup de temps. Nous avons 10 fontaines maintenant, à peu près à 200 mètres seulement. L'eau n'est pas chère. Avec 2 francs, je peux acheter de l'eau pour 2 semaines. Et nous ne sommes plus malades maintenant. Parce qu'avant, on souffrait de diarrhée, vous voyez. Maintenant, nous n'avons plus de problèmes intestinaux.
Voilà pour ce reportage donc réalisé en 2000 en Afrique du Sud par Nathalie Fontrel. On voit évidemment l'importance, l'événement de l'arrivée de l'eau dans ce village. Alors Sylvain par courriel demande si installer des désalinisateurs en nombre sur les littoraux désertiques est-il utopique. Il pense évidemment à l'Afrique notamment.
Oui, donc ça c'est une des grandes questions. Aujourd'hui, la technologie a beaucoup progressé en matière de désalinisation. Aujourd'hui, le coût de production de l'eau potable par cette technologie devient raisonnable. Le seul obstacle qu'il reste, en particulier pour les secteurs désertiques, c'est la production d'énergie nécessaire pour pouvoir faire fonctionner ces installations. Donc ça, c'est l'enjeu principal. Dans des secteurs où, effectivement, des ressources naturelles sont disponibles, que ce soit gaz, pétrole, par exemple, existent, ce problème est réglé. C'est le cas en particulier du Golfe Persique. Les unités de désalinisation existent aujourd'hui, fonctionnent de manière totalement efficace et peuvent complètement répondre à la demande des populations. Restent les pays pauvres, qui généralement ont des difficultés à la fois à installer leurs équipements en matière de traitement d'eau, d'alimentation en eau potable, et aussi ont une dépendance énergétique très très forte. Donc c'est plus un problème économique qu'un problème technique.
Alexia a une question. Bonjour Alexia.
Bonjour. J'aimerais bien savoir pourquoi l'eau est appelée de l'or bleu.
Alors, ça, c'est aussi une question assez, assez large. L'or bleu, je crois que ça fait référence au développement de la vie et au support absolument essentiel que joue l'eau dans le développement de la vie. Donc, dans le développement de la vie humaine, bien sûr, l'eau nous est totalement indispensable pour pouvoir survivre, mais c'est un élément aussi constitutif et indispensable d'énormément d'environnements naturels. Ça en fait la diversité, ça en fait la richesse. Et donc, cet or bleu est un support essentiel au développement de la vie et l'une des grandes qualités de notre planète, bien sûr.
Les questions des auditeurs sur franceinter.com, celles des élèves, bien sûr, ici en direct du lycée Diderot de Marseille. On vous retrouve, Philippe Gourbeville, dans un instant donc, pour parler de l'eau dans la tête au carré.
Je récupère l'eau.
Donc ça, c'est encore pour faire des économies d'eau.
Tout le temps, oui.
Vous faites un petit jardin derrière, des haricots, vous avez.
Je m'en sers pour mes cabinets, je m'en sers pour...
Vous en servez pour vos cabinets?
Ouais, je tire pas la chasse.
C'est vraiment une obsédée de l'économie d'eau.
Ah, mais dites donc, c'est moi qui paye, hein.
Voilà, apparemment, ça a beaucoup plu aux élèves du lycée Diderot, ce sujet de François Ruffin, extrait de La Basse si j'y suis, tourné en 2006, donc avec une dame du Limousin. Vous seriez prêt à prendre une douche par semaine après? Non, pas vraiment. Vous n'avez pas l'air emballé par cette idée. Pourtant, on essaie de faire des efforts pour vous proposer des solutions pour économiser l'eau. Guillaume, tu as une question justement sur l'idée des traitements et des techniques pour améliorer la qualité de l'eau.
Et bonjour.
Bonjour.
Nous voudrions savoir quelles sont les différentes techniques de traitement des eaux.
Alors,
je pense que là,
on va compléter ce qu'on a un peu dit déjà tout à l'heure.
Alors, je pense que là, ce qu'on essaye d'aborder, c'est le volet des eaux usées. Donc, lorsqu'on a effectivement utilisé toutes les eaux à l'intérieur de la vie domestique, qu'est-ce que deviennent ces eaux? Je crois que maintenant, tout le monde a bien compris qu'il fallait éviter de les renvoyer telles quelles dans le milieu naturel. Dégradation des rivières, dégradation des lacs, du littoral, etc. Plus personne ne veut ça. On est tous d'accord. Donc, la plupart du temps, en Europe tout au moins et en France, assez souvent, donc on va collecter les eaux à l'intérieur d'un système... Un système d'assainissement, généralement, sont des gros collecteurs, c'est le tout à l'égout. On va collecter les eaux, les envoyer vers ce qu'on appelle aujourd'hui une usine d'assainissement, une station d'épuration. Et on va essayer de faire disparaître au moins 70% de la pollution avant de renvoyer cette eau vers le milieu naturel, en s'assurant qu'on a éliminé tout ce qui était la pollution la plus dommageable sur le milieu. Aujourd'hui, on sait faire beaucoup mieux que ça. On sait même aller au-delà des 70%, on sait aller à 90%, et on sait même aller à 100%, puisqu'on est capable de recycler intégralement les eaux usées pour les rendre potable pour pouvoir ensuite la consommer.
Oui, vous me disiez tout à l'heure en antenne, finalement, on arrive à faire de l'eau traitée de meilleure qualité que l'eau naturelle.
On peut complètement contrôler la qualité de cette eau que l'on va produire à partir des eaux usées. On peut aller très très loin. Il faut savoir que par exemple à Singapour, on produit de l'eau en bouteille qui s'appelle New Water directement à partir des eaux usées. Donc on vous vend une eau en bouteille qui n'est pas de l'eau minérale, bien sûr, mais qui est de l'eau épurée, traitée, totalement consommable, parfaitement potable, donc avec une belle étiquette bleue qui s'appelle New Water, ouais. Et qui est vendue beaucoup moins cher que les autres, bien sûr, mais qui est une eau totalement recyclée. Aujourd'hui, on sait le faire, et c'est sans doute l'un des voies de développement pour essayer de réduire encore la consommation et d'avoir une sorte de circuit fermé qui permet de réutiliser en permanence la même eau.
Les professionnels du marketing n'ont pas osé faire ça encore en France, hein,
je crois. Pas encore, parce que je pense qu'il y a encore un obstacle, il y a un petit obstacle psychologique, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui représente un intérêt très très fort pour des pays en voie de développement ou pour des installations collectives.
Alors dans les courriels des auditeurs, c'est également un match Paris-Marseille. Alors d'abord le courriel de Nicolas qui est à Paris. Ce matin, en allant travailler, j'ai vu les services de la ville de Paris nettoyer les trottoirs de Paris avec de grandes quantités d'eau et de Karcher. Je trouve ça déplorable, dit-il. Et à Marseille, Didier nous dit « Pourquoi la ville de Marseille est-elle la seule que je connaisse à nettoyer ses rues en ouvrant les vannes et laisser couler même s'il pleut? N'est-ce pas une preuve d'un gaspillage d'eau non réfléchie ?»
Alors,
tout le monde en prend pour son grade.
Oui, je pense qu'on va arriver à un match nul entre Marseille et Paris sur cette question. Non, je crois qu'il y a deux aspects. Aujourd'hui, on a tendance à nettoyer quand même de moins en moins et de manière de plus en plus efficace. C'est sûr qu'il faudrait compléter le dispositif par un recyclage de cette eau qui est utilisée pour le nettoyage. Un point important, par exemple, à Paris, il faut savoir que les vannes qui sont utilisées, que l'on voit sur les trottoirs, c'est en fait l'eau de la Seine qui est utilisée pour le nettoyage. Il y a un double système de pompage pour nettoyer les chaussées, donc ce n'est pas de l'eau potable.
C'est pour ça qu'on voit des anguilles de temps en temps sur les trottoirs.
Non, ça, c'est à proximité d'une poissonnerie, bien entendu, mais pas...
Et alors pour Marseille ?
Pour Marseille, là, effectivement, il faudrait essayer d'avoir une politique un peu plus raisonnée au niveau de l'usage et du nettoyage. Mais c'est un problème extrêmement compliqué qui passe d'abord par essayer de raisonner la production de déchets à la surface des chaussées. Donc on n'a pas besoin de nettoyer si les chaussées sont propres. Donc le premier geste à faire, c'est effectivement de mettre les déchets dans la poubelle pour ne pas avoir besoin de nettoyer ensuite.
Alors, où est Cilia ? Voilà, tu es là. Bonjour Cilia.
Bonjour.
Et on t'écoute avec ta question.
Peut-on dire que la gestion durable rime avec développement durable ?
Merde. Tu veux la refaire ? On est en direct, mais on peut la refaire si tu veux. Alors, est-ce que vous avez bien compris la question ?
Oui, oui, je crois que mais c'est une question tout à fait...
Spontanée ?
Tout à fait spontanée, tout à fait intéressante et tout à fait d'actualité. Oui, je crois que la réponse est bien évidemment et oui. Donc, gestion durable de l'eau, développement durable, tout ce qui concourt à essayer d'économiser et mettre en place des solutions qui permettent de réduire la consommation sont le bienvenu. Bien évidemment, aujourd'hui, les pays en voie de développement ont tout intérêt à ne pas faire les erreurs qui ont été faites dans les pays industrialisés d'aujourd'hui et directement opter pour les solutions les plus économes en consommation d'eau.
Cilia, ne te cache pas derrière tes cheveux. Tu auras même le droit de poser une deuxième question, si tu veux, avant la fin de l'émission. Alors, ce courriel de Gérard, pourquoi est-ce qu'on mélange les eaux grises ? Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que les eaux grises ?
Les eaux grises, a priori, ce sont les eaux usées qui sortent en général des habitations, donc ce sont les eaux domestiques.
Mmh, pour après donc traiter les eaux usées qui par des réactions chimiques sont devenues riches en nitrate. Alors la question du nitrate, il faut peut-être la préciser aussi, parce que la présence du nitrate n'est pas forcément dangereuse à tous les coups.
Elle n'est pas dangereuse à tous les coups et tout dépend quel est l'usage en fait, qui est fait de l'eau. Il faut savoir que pour l'eau potable, il y a un certain nombre, il y a une norme qui permet de définir quelle est la nature maximale autorisée de chacun des éléments chimiques. La teneur en nitrate est effectivement très contrôlée au niveau de l'eau du robinet pour un certain nombre de raisons, en particulier pour la protection sanitaire et pour ne pas déclencher de réaction auprès de personnes qui pourraient être sensibles à cette trop forte concentration en nitrate. Mais en revanche, naturellement, un certain nombre de ressources, de nappes phréatiques sont riches en nitrates. Ça peut être le fruit de l'agriculture. Les nitrates ont pu migrer au niveau des sols et venir polluer et rendre impropre à l'alimentation en eau potable, mais c'est quelque chose qui peut exister et qui est un élément chimique naturel au niveau de certaines ressources en eau.
L'agriculture qui, entre parenthèses, est la plus grande consommatrice d'eau. Hein.
70% de la ressource en eau douce de la planète est utilisée pour l'agriculture et l'irrigation. C'est de très très loin le premier domaine d'utilisation de l'eau douce. Ce n'est pas le cas en France. C'est seulement à peu près 35%, l'industrie en prenant 50%. Mais
L'usage domestique,
l'usage domestique est relativement faible.
Ouais. Sofiane, l'autre Sofiane. Bonjour. Sofiane.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Sofiane.
Bonjour. Alors, nous avons parlé de la consommation excessive de l'eau avec Cilia, mais face à cette surconsommation, en envisageant une possible disparition de l'eau potable sur Terre, alors on se demandait avec tout le monde comment l'être humain pourrait assurer l'avenir de la planète.
Sans eau potable.
Sans eau potable, oui.
Ah.
Je crois que la réponse va être très claire et très rapide. C'est pas possible, tout simplement. Donc plus d'eau potable, plus d'humanité, donc plus d'humains sur la planète. C'est aussi simple que ça. Donc je comprends votre question comme étant comment s'assurer que l'eau potable sera toujours disponible. Aujourd'hui, avec la pression démographique, c'est-à-dire le nombre, la population qui augmente à la surface de la Terre, la quantité d'eau disponible qui, elle, reste la même, qui reste inchangée, c'est toujours le même volume d'eau douce qui nous reste disponible pour l'ensemble de l'humanité, il sera, d'ici 25 ans, utilisé à 90%. C'est-à-dire que 90% de la ressource en eau douce sera utilisée par les hommes si on continue à rester sur le même mode de développement économique avec les mêmes niveaux de consommation. Donc bien évidemment, plus on va pouvoir essayer de réduire et de contrôler à la fois notre consommation, mais aussi les impacts de la pollution sur la ressource, et plus on aura de chances de préserver cette ressource.
Alors justement, des réserves en eau douce, on entend souvent parler ici dans la région, au large de Marseille ou au large de Cassis, de poches d'eau douce dans la mer. Alors est-ce qu'on pourrait exploiter cette eau et comment se fait-il qu'elle se trouve là ?
Alors c'est effectivement l'une des particularités de tous les massifs calcaires et karstiques qui se trouvent à proximité des côtes, et c'est le cas effectivement à Marseille. Et dans différentes villes le long de la côte en allant vers l'Italie, on a en fait des massifs qui sont calcaires, qui ont été creusées, érodées par l'eau au cours des millénaires. À l'intérieur de ces massifs calcaires se sont formés un certain nombre de grandes canalisations dans lesquelles l'eau s'écoule. Et effectivement, cette eau rejoint la mer. Donc cette eau douce rejoint la mer, créée en fait sorte de source sous-marine qui relâche cette eau douce au niveau du domaine maritime. Leur exploitation est en fait extrêmement difficile.
Mais il y a des réserves vraiment intéressantes en quantité
C'est pas vraiment un réservoir, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'écoulement qui se fait à l'intérieur du bassin versant, de la partie amont vers la partie aval. Donc c'est quelque chose qui s'écoule comme une rivière en surface, c'est un écoulement souterrain qui est beaucoup plus lent qu'une rivière, donc on n'a pas le même débit, on n'a pas la même vitesse, mais c'est quelque chose qui pourrait être capté avec un effort technologique relativement important. Aujourd'hui, l'effort technologique à faire est trop important et trop cher par rapport à la quantité d'eau disponible et par rapport à ce qu'est la production classique de l'eau aujourd'hui au niveau des rivières ou des nappes phréatiques.
Alors pour justement compléter un petit peu la question de Sofiane tout à l'heure hein, sur un avenir qui serait vraiment très noir avec plus d'eau potable du tout, on a quand même de bonnes réserves au Groenland ou en Antarctique. C'est de l'eau douce en quantité très impressionnante qu'on n'utilise pas pour l'instant. Techniquement, on n'a pas les moyens de pouvoir utiliser cette eau.
Alors ça fait partie des grands mythes ou des grands projets qui reviennent de manière récurrente. Oui. Très, très souvent,
on imagine aller découper
un iceberg, le traîner derrière un bateau et le faire venir jusqu'au niveau des pays qui ont effectivement besoin d'eau douce.
Oui.
C'est peu réaliste déjà au niveau technique. C'est peu réaliste d'imaginer transporter un glaçon aussi vaste que celui-ci au niveau d'une côte africaine pour finalement obtenir une dimension très très faible, ouais. Difficile à utiliser. En revanche, il serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus judicieux d'essayer de retenir, de capter l'eau qui s'écoule dans les fleuves. On a énormément de fleuves de par le monde qui s'écoulent et qui renvoient vers la mer des volumes très importants d'eau douce. Là, on pourrait imaginer un système qui permet soit de stocker pour partie à terre et pour réutiliser cette eau, ou au contraire d'imaginer de capter cette eau douce. Il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent de les mettre, par exemple, une espèce de grand container, sorte de grand sac en plastique, de le mettre dans le courant marin, de les laisser dériver et de les emmener quasi naturellement jusqu'au niveau des pays qui pourraient ensuite les réutiliser. Mais par-dessus tout ça, les techniques de désalinisation aujourd'hui ou de recyclage d'eau s'avèrent beaucoup plus intéressantes à la fois économiquement et au niveau de la performance, de la qualité de l'eau que l'on peut produire par ces méthodes.
Abdou.
Ouais, j'ai plusieurs questions.
Allez, vas-y.
Après la question de Sofiane, vu que la vie sur Terre n'est pas possible sans eau potable, y a-t-il des organisations qui veillent à qu'il n'y ait pas beaucoup de gaspillage ?
Est-ce qu'il y a une police du gaspillage de l'eau ?
Est-ce qu'il y a une police du gaspillage de l'eau ? Je crois que la police du gaspillage de l'eau, c'est tout à chacun de la mettre en place. Je crois que ça passe d'abord par une conscience individuelle. Je crois qu'il faut qu'individuellement, chacun essaye de raisonner sa consommation en eau. Utiliser juste la bonne quantité d'eau, ça c'est déjà le premier réflexe. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau des différents pays, et c'est le cas en Europe et c'est surtout le cas en France, il existe au niveau de l'administration un certain nombre de services qui sont chargés d'abord du contrôle de la qualité de l'eau qui arrive au niveau du robinet, et bien sûr qu'ils vont contrôler les rejets vers le milieu naturel. Il y a un service qui s'occupe du contrôle du rejet des stations d'épuration. On s'assure que tout ça se fait correctement et que bien évidemment on ne va pas polluer de manière très importante des ressources en eau. Donc ça existe en Europe, mais ça n'existe pas partout dans le monde, et c'est un effort que doivent faire les pays pour essayer de mettre en place cette régulation.
Alors puisqu'on parle de police, voici celle de Sting, et on se retrouve juste après avec les élèves du lycée Diderot en direct de Marseille pour cette tête au carré consacrée à l'eau. Diderot pour parler de l'eau avec notre invité Philippe Gourbeville. Alors Morgane, une question pour vous dans un instant. D'abord le courriel de David qui nous dit ceci: afin de ne plus gaspiller l'eau, est-ce qu'on ne pourrait pas pratiquer des prix différents en fonction de l'utilisation, une quasi-gratuité pour l'usage, c'est-à-dire pour se nourrir, pour se laver, et un renchérissement du mésusage comme laver sa voiture ou remplir une piscine privée?
Oui, donc ça
est-ce qu'il y a des pistes dans ce courriel?
Il y a effectivement des pistes. Aujourd'hui, beaucoup d'États travaillent sur une sorte de tarification qui s'accommode des différents usages. L'idée étant effectivement d'avoir un tarif relativement modéré pour la consommation domestique et essayer de graduer cette tarification. La chose importante derrière, c'est de dire qu'il faut effectivement faire payer l'eau. Je crois que ça, c'est un domaine sur lequel tous les professionnels sont absolument d'accord, tout simplement pour éviter le gaspillage. Ouais. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur et par conséquent, on peut la gaspiller. Même si on la paye de valeur extrêmement symbolique, de manière extrêmement faible, c'est quelque chose de très important que de faire payer l'eau.
Qu'est-ce qu'il est ressorti du forum d'Istanbul il y a quelques jours au niveau politique précisément sur les grandes décisions à prendre en la matière?
Il est ressorti justement cette nécessité d'avoir une tarification qui soit adaptée en fonction des usages, la nécessité de mettre en place une gestion intégrée des bassins versants, c'est-à-dire la nécessité de prendre en compte tous les usages, tous, quels qu'ils soient individuels, industriels, agricoles, pour pouvoir avoir une réflexion globale au niveau de la gestion de l'eau, tant au niveau de la région que du pays, que du groupe du pays, lorsque le bassin versant couvre plusieurs pays.
Oui. Morgane, bonjour.
Bonjour.
On
donc,
t'écoute.
Une question qui, je pense, pourrait être intéressante dans notre actualité. Est-ce que les conflits pour l'utilisation de l'eau peuvent-ils devenir un problème majeur au XXIe siècle?
Alors ça, c'est une question qui, effectivement, anime beaucoup de spécialistes. On a tous en tête des conflits, en particulier au Moyen-Orient, qui posent le problème de l'accès à l'eau sur un certain nombre de fleuves. J'aurais tendance à dire qu'il existe de vieilles querelles. Il existe une vieille querelle, par exemple, entre le Mexique et les États-Unis, qui traîne depuis plusieurs dizaines d'années, les États-Unis étant en faute et payant effectivement une amende au Mexique pour un usage un petit peu trop important sur une rivière qui existe entre ces deux, entre ces deux pays. Aujourd'hui, ça n'a pas déclenché de véritable guerre. C'est quelque chose qui se règle au niveau administratif.
Françoise demande si on peut parler de guerre de l'eau déjà aujourd'hui ou pas.
Je pense qu'au niveau du Moyen-Orient et dans certains secteurs très spécifiques, il peut effectivement y avoir des tensions entre les pays. Véritable guerre, ça reste à démontrer. Mais
le Canada est un pays très convoité justement aussi par les États-Unis pour la présence de ces lacs. Hein.
Tout à fait. Le Canada, comme la Fédération de Russie, possède d'énormes ressources en matière d'eau douce. Et c'est très clair que ça représente un enjeu très, 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 très important. Mais aujourd'hui, les conflits restent, j'allais dire, régionaux et relativement mineurs pour l'instant. Mais il est évident que dans certains processus des relations entre deux pays, ça reste un élément essentiel de discussion, en particulier au Moyen-Orient.
Même si ce qu'on appelle le stress hydrique pourrait justement, peut-être à l'avenir...
Alors, le stress hydrique est quelque chose qui est un petit peu différent. On s'aperçoit qu'en fait, toutes les régions les plus peuplées dans le monde, et l'Europe aussi, sont à terme, d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années, menacées de stress
hydrique.
De stress hydrique.
Attic, en fait, ce sera la dernière question d'ailleurs, je crois, avec toi. Bonjour.
Sur l'avenir pour l'eau aussi, parce qu'on se pose en fait beaucoup de questions. Si il faut être pessimiste par rapport à l'avenir sur l'eau, si on devrait être pessimiste.
Je crois d'abord qu'il ne faut jamais être pessimiste, donc par définition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'une partie de la bataille est gagnée au niveau des pays en voie de développement. Le principe d'une gestion intégrée, d'une meilleure gestion, d'un meilleur usage de l'eau est en train de passer. Tout l'enjeu maintenant va être d'essayer de faire comprendre ce principe-là à la majorité de la population du monde. Des grands pays qui sont en train de se développer, comme la Chine, voient leur consommation en eau exploser au cours des dernières années. Et il est très important d'aider ces pays à s'orienter vers une gestion la plus intégrée possible, la plus raisonnable possible, pour qu'on ne mette pas en cause cette ressource qui est limitée et qui est le bien commun de l'ensemble de l'humanité.
Et Michel Parcouriel nous dit, la solution au problème de l'eau ne serait-elle pas politique? Notre consommation en tant qu'occidentaux est-elle supportable au niveau sanitaire et au niveau moral vis-à-vis des autres habitants de la planète?
J'aurais tendance à dire que bien évidemment la solution est politique. Il faut un engagement très très fort des politiques et des différents États. Le Forum d'Istanbul a de nouveau souligné cet engagement politique initiale qui doit forcément être prise. Au niveau de la consommation européenne, il faut simplement dire que nous ne sommes pas les plus mauvais élèves de la classe. Je l'ai dit tout à l'heure, aux alentours de 130 à 150 litres d'eau par jour. Nos amis de l'Atlantique Nord, enfin de Nord-Américains, consomment beaucoup plus que nous, hein, 500, 700 litres par jour. Donc je crois qu'il faut venir effectivement à des consommations plus réduites. Si on revient sur un mode de consommation plus limité, là effectivement nous arriverons à préserver la ressource et permettre le développement de l'ensemble des pays de l'humanité. Ouais.
On connaît les effets du réchauffement climatique sur le cycle de l'eau actuellement ou pas ?
On connaît un certain nombre d'effets du réchauffement climatique sur la remontée du niveau marin, l'augmentation des températures. On a aujourd'hui relativement peu d'informations sur le cycle hydrologique, les conséquences sur le cycle hydrologique. Ce que l'on sait simplement, c'est qu'on imagine avoir des précipitations un petit peu plus importantes aux moyennes latitudes, mais pas d'effets notoires sur les précipitations extrêmes.
Catherine Lelès, pour terminer, puisque c'est vous qui nous accompagnez avec l'Université de tous les savoirs dans notre tête au carré tour, hein, aujourd'hui donc à Marseille. On va se retrouver dans le Finistère, ce sera au mois de mai, dans un mois donc, pour parler d'un autre sujet avec les élèves. On peut donner justement les rendez-vous des conférences avec l'Université de tous les savoirs que vous organisez donc régulièrement.
Oui, alors avant de donner juste une petite information, toutes ces interventions dans les lycées, en tous les cas, en région PACA, sont organisées grâce au soutien du Conseil régional de la région PACA, qui nous a demandé d'organiser 40 conférences dans 20 de vos lycées, deux par lycée. Monsieur Gouaville est déjà d'ailleurs intervenu. Et je crois que c'est une occasion et une grande richesse pour vous de rencontrer comme ça des personnalités et de dialoguer avec elles. La prochaine conférence, d'ailleurs en région PACA, elle a lieu au lycée Philippe Girard d'Avignon et elle est le 16 avril sur les énergies renouvelables. Et avec France Inter, qui nous accompagne une fois par mois dans un lycée, on va aller au lycée Pierre-Avril de Lamballe, où on va encore parler de l'eau, mais d'une façon différente, à travers la question de la recherche sur les algues marines. Voilà.
Voilà, prochain rendez-vous. Et puis on retrouve les conférences sur le site de l'UTLS.fr. Et puis ce rendez-vous aujourd'hui du lycée Diderot qui a été capté. Donc on pourra retrouver sous forme de vidéo également sur le site. Merci à Benoît Gégou, Hervé Desjardins, Bruno Lampert et Alain Fauché. Merci encore à Violaine Ballet et Sophie Ledoré et Gilles Autroche, donc le proviseur du lycée Diderot. Merci beaucoup à tous. Bonne journée donc à Marseille. Merci de nous avoir reçus. Et dans un instant, les infos et Daniel Mermet.
C'est beau, c'est beau, et deuxième million.